Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière, effectivement, ce dernier rendez-vous de l'heure du crime en direct sur RTL. Et ce soir, nous allons faire le point sur l'affaire Grégory, parce que c'est le plus grand mystère criminel que la France ait connu, je crois, depuis plus de 35 ans. Rappelons-nous, le 16 octobre 1984, vers 21h, on retrouve dans la Vologne, pieds et poings liés, le corps d'un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, que tout le monde cherchait d'ailleurs ce jour-là dans la région de l'Épanche depuis sa disparition devant le domicile de ses parents aux alentours de 17h. Un reporter photographe est sur place. La photo de cet enfant mort dans les bras d'un pompier en pleurs fera le tour du monde. Et c'est le début d'une incroyable affaire, d'un incroyable et regrettable feuilleton judiciaire, policier, médiatique, qui va bouleverser la France au rythme de ses multiples rebondissements. L'arrestation de Bernard Laroche, accusé d'avoir tué le petit Grégory. Bernard Laroche abattu un mois plus tard par Jean-Marie Villemain. Christine, la mère de Grégory, mise elle-même en accusation, incarcérée 11 jours avant d'être libéré, puis lavé de tout soupçon 8 longues années plus tard. Et puis les derniers coups de théâtre, on les a tous vécus au printemps 2017 et l'année suivante, 2018, des mises en examen pour séquestration suivies de mort, des incarcérations, puis des assignations à résidence, des remises en liberté, la garde à vue de Muriel Boll de 1984 annulée et déclarée non constitutionnelle. Enfin, au-delà du gâchis, du chaos, des erreurs, une certitude, et c'est ce soir celle que nous allons développer avec mes invités, l'affaire n'est pas terminée. Avec les avocats de Christine et Jean-Marie Villemain, nous allons parler donc d'avenir et d'espoir, car les parents de Grégory demeurent persuadés qu'ils réussiront à faire éclater la vérité. Ils n'ont jamais baissé les bras. Et c'est pourquoi cette affaire fait partie de celles qui m'ont le plus marqué ces 10 dernières années.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et rebonsoir à toutes et à tous. Voici donc une nouvelle et dernière édition de l'heure du crime après 10 ans passés sur RTL à plusieurs heures de la journée, en début d'après-midi et puis le soir depuis plusieurs années. Voilà, je voulais simplement, vous savez que j'aime pas trop la grandiloquence, donc simplement merci. Merci pour le succès de l'émission qui doit tout à votre fidélité. Je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission et puis merci évidemment à toutes les équipes qui m'ont entouré depuis ces 10 ans, et j'en dirai un petit peu plus à la fin de l'émission. Ça s'appelle un teasing, ce que je viens de faire. Ce soir, donc, pour cette dernière émission, le combat pour la vérité de Christine et Jean-Marie Villemain. Je le disais il y a un petit instant, j'ai toujours été marqué, frappé, et j'ai admiré ce couple, Christine et Jean-Marie Villemain, pour leur combativité, pour le fait qu'ils n'aient jamais baissé les bras, alors que il ne faut quand même pas oublier qu'au début de cette histoire, la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un homme et d'une femme leur est arrivée. La mort d'un enfant, c'est une blessure, et tous ceux qui ont vécu ce drame savent que ces blessures ne cicatrisent jamais. C'est déjà terrible quand la cause de la mort est une maladie ou un accident, mais quand il s'agit d'un crime, comment imaginer ce que nous pourrions faire à leur place? Comment comprendre que quelqu'un ait pu condamner à mort, au nom de la jalousie et de la haine, un petit enfant? Voilà. C'est pour ça donc que je partage ces sommets de révolte et d'incompréhension qui sont partagés par, bien sûr, des millions de Français. Alors, j'ai dit aussi tout à l'heure que ce soir, on allait surtout parler d'espoir. On va revoir le calendrier judiciaire de cette affaire qui n'est pas terminée et qui va se poursuivre dans les semaines et les mois, et on l'espère peut-être pas les années qui viennent, parce que tout le monde souhaite, bien sûr, qu'un jour on aboutisse à la vérité une fois pour pour toutes. On va en parler avec deux des trois avocats de Christine et Jean-Marie Villemain, maître Marie-Christine Chastan-Morand, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc l'une des avocates historiques, on va dire, hein, du couple Villemain, voilà, que vous défendez dans les différents dossiers, dans les différents rebondissements aussi, avec maître François Saint-Pierre et maître Thierry Moser. Maître François Saint-Pierre sera en ligne d'ailleurs dans cette émission tout à l'heure, et maître Thierry Moser ne pouvait pas participer, mais on le pardonne aisément parce qu'on sait pourquoi il ne peut pas participer. Et puis nous aurons également dans cette émission un journaliste. Et il en fallait un parce que c'est vrai que ce feuilleton a été un feuilleton judiciaire, policier, mais aussi un feuilleton médiatique. J'ai donc demandé à Jacques Expert de témoigner dans cette émission ce soir. Alors, depuis le début de cette affaire, il a été, enfin au tout début, sur le terrain. Il a évidemment professionnellement rencontré de multiples reprises Christine et Jean-Marie Villemain. Et à ma connaissance, mais on va vérifier ça avec lui tout à l'heure, il est toujours, sinon proche, c'est pas un intime, mais enfin, il s'intéresse aussi et il partage notre admiration pour le combat de ce couple admirable. Alors, maintenant, parlons, maître Marie-Christine Chastan-Morand, parlons du calendrier à venir de cette affaire. Quand on dit espoir, vous le fondez sur quoi et que va-t-il se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines ?
Bien déjà, nous allons pouvoir maintenant repartir sur le fond de l'affaire, puisque comme vous l'avez dit, il y a eu des problèmes de procédure qui ont dû être examinés. Donc maintenant, enfin, nous allons pouvoir essayer de cerner davantage et de repartir au fond. Alors l'espoir, ils l'ont chevillé au corps, bien évidemment. Et Jean-Marie et Christine espèrent d'abord dans la science, dans les progrès de la science. Les progrès de la science permettent d'envisager de nouveaux développements. Alors, nous savons qu'il y a la science de l'ADN. Je pense, pour ma part, et ils le pensent également, que l'ADN n'a pas donné son dernier mot, n'a pas dit son dernier mot. Il y a encore des choses à faire et nous espérons dans cette science. Et puis, d'autre part, il y a des expertises également qui avaient été ordonnées avant tous ces problèmes de procédure, dont nous ne connaissons pas encore les résultats, mais qui doivent peut-être être au dossier, ou qui en tout cas vont rejoindre le dossier, et notamment une expertise en stylométrie qui permet de rechercher, à attribuer un texte à son auteur. Alors nous avons plusieurs lettres anonymes, on a un certain nombre de lettres anonymes. Nous avons également les conversations téléphoniques, un grand nombre de conversations téléphoniques qui ont été retranscrites. Et donc, cette science permet, par l'analyse de la syntaxe, de la sémantique, des statistiques, d'essayer d'attribuer à un auteur. Donc voilà, il y a des éléments scientifiques. Et puis, ils espèrent également toujours, et ça, jamais on ne pourra, ils ne pourront oublier que malheureusement, il y a des gens qui ont vu des choses et qui n'ont pas parlé. Il y a des gens qui savent par rapport à la famille ou qui ont entendu. Et ce qu'ils espèrent, bien évidemment, et ça c'est très humain, ce qu'ils espèrent, c'est que ces gens, c'est peut-être ces enfants qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont entendu dire des choses, s'expriment, libèrent leurs paroles, disent ce qu'ils savent. Cet enfant, il a été enlevé, il était au bord de la Vologne aux alentours de 17h30. 17h30, dans les Vosges, et à cet endroit-là, c'est l'heure de la sortie des usines. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont aux alentours, et il n'est pas possible, dans ces petites villes, dans ces villages, tout se voit, tout se sait. Et il n'est pas possible que personne n'ait rien vu. Donc, ce qu'ils espèrent, et je me permets de profiter de votre émission, pour lancer, comme nous l'avons déjà fait, un appel à témoins. C'est vrai que cette affaire est très ancienne, mais la vérité, finalement, ne s'attache pas au temps. Et même si quelqu'un a une bribe de vérité, s'il ne sait pas tout, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est dire ce que l'on a vu, dire ce que l'on a entendu, dire ce que l'on a appris. Et c'est assez facile, il suffit de se présenter à la cour d'appel de Dijon, où il y a le magistrat qui est en charge de ce supplément d'information, qui est le président Brault. Et il suffit d'aller se présenter et de dire que l'on a des choses à dire sur cette affaire.
Et continuez, là je parle sous le contrôle de l'avocate pénaliste que vous êtes. Il faut peut-être rappeler aussi qu'il est possible, parce que c'est dans la loi, de témoigner anonymement. C'est-à-dire, on dit qui on est, bien sûr, mais on a la certitude que notre identité ne sera pas versée au dossier pour protéger notre anonymat.
C'est tout à fait possible, puisque dans ce dossier, il y a déjà eu, effectivement, des témoignages sous cette forme. En tout cas, que ceux qui savent qu'ils ont une bribe, un morceau de vérité, n'hésitent pas, et c'est même un devoir civique, il faut le faire. Et Christine et Jean-Marie Villemain, comme vous l'avez rappelé, qui ont vu leur enfant assassiné, enfant de 4 ans assassiné, qui ensuite ont connu les pires choses dans ce dossier, vraiment méritent de savoir. Et si leur combat, parce que c'est véritablement un combat pour la vérité, pour savoir quels ont été les derniers moments de leur petit garçon, s'ils conduisent ce combat, eh bien, ils méritent d'être aidés.
L'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime ce soir, le combat pour la vérité de Christine et Jean-Marie Villemain.
Jean-Marie Villemain, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi ? Qu'est-ce qui vous en veut à ce point ?
Je ne sais pas. Je peux pas savoir.
Est-ce que vous avez une petite idée ?
J'en ai une, mais je la garde.
La personne qui a appelé a dit le chef. Mais pourquoi ? Vous êtes le chef ?
Le chef, il m'appelle le chef depuis que je suis passé agent de maîtrise, c'est tout.
C'est d'une manière gentille ou c'est méchant? Est-ce que vous avez des adversaires?
Non. Non, j'en ai pas.
Les enquêteurs disent que la personne qui a fait ça est dans le cercle familial. Vous y pensez?
Personnellement, oui. Mais il paraît que non. On verra. J'attends. J'attends.
Pourquoi? On vous a dit le contraire?
Non, mais on attend. Je fais confiance à la gendarmerie, ils font leur travail. Ils font du mieux que possible. Je les ai encore vus ce matin, il n'y a rien de nouveau pour l'instant.
Mais qu'est-ce qui pouvait vous en vouloir à ce point-là? On en voulait à votre réussite?
Une réussite, il y en a beaucoup qui ont des réussites comme ça. J'ai pas gagné au loto, hein. Seulement je travaille, ma femme aussi, c'est tout. Ce qu'on a, on travaille pour l'avoir. Il y en a beaucoup comme ça. Seulement il y en a qui sont feignants. Qui envie les autres, ceux qui travaillent, c'est tout.
Jusqu'au point de s'en prendre à votre fils?
Il y a des fous sur Terre. Ça.
Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez?
Moi, je le connais. Je le connais, oui.
18 octobre 1984, c'est deux jours après la découverte de l'assassinat du petit Grégory. Jean-Marie Villemain répondait aux questions du correspondant d'RTL dans la région, Jean-Michel Bézina. Bonsoir Jacques Expert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Donc vous l'avez entendu, nous parlons... on va pas refaire l'affaire Grégory. On parle d'avenir, comme on a commencé à le faire avec Maître Chastan-Morand. Et puis, on parle aussi du combat de ce couple dont on peut se demander comment ils tiennent le coup malgré la pression ou les pressions médiatiques dont on va reparler tout à l'heure ensemble. Mais d'abord, quel est votre éclairage personnel sur le combat de ces personnes que vous avez fini par connaître bien parce que vous suivez cette affaire depuis le début?
Je ne l'ai pas quitté, cette affaire. Vous avez dit tout à l'heure, en démarrant l'émission, il n'y a pas pire chose dans la vie d'une mère, c'est de perdre un enfant. Mais dans le cas de Christine Villemain, il y a pire. C'est qu'elle a été accusée d'avoir tué cet enfant. Je crois qu'il n'y a pas de plus douloureux à subir que ces accusations-là, dont elle a été, heureusement, lavée ensuite et totalement innocentée. Mais vous imaginez, on perd un enfant et ensuite on est accusé de l'avoir tué. Je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à une mère quand elle n'a pas tué son enfant. Mmh. Alors, vous me demandez de parler de ce couple. Ce couple a refait sa vie. Et ce qui est frappant pour les gens qui peuvent encore les croiser, et dans les témoignages que je peux avoir, et dans mon propre témoignage, c'est ce qui est frappant, c'est que c'est un couple positif. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a un drame de cette dimension qui vous frappe, souvent les couples n'y résistent pas, éclatent, explosent, se font des reproches, etc. Ce couple est resté soudé. Et je ne dis pas qu'il a reconstruit la vie, mais une vie. Mais en tout cas, il s'est construit de façon solide une vie, mais surtout un avenir. Mmh. Et cet avenir repose sur des enfants qui sont, trois enfants qui sont nés, qui ont de belles situations, sur une vie qu'ils ont construite en lointaine banlieue parisienne, enfin dans le bassin parisien. Et c'est ce qui frappe, c'est qu'à la fois, ils sont dans le présent, c'est-à-dire ils sont grands-parents, ils ont envie que leurs enfants vivent bien, profitent, etc. Mais ils n'ont pas oublié. Et c'est ce mélange entre la foi qu'ils ont en eux et la foi qu'ils ont dans ce besoin de vérité qui est frappant dans ce couple. Accueillant, souriant et positif. Et moi, c'est ce côté positif qui est chez eux qui me frappe le plus.
Alors, on va se retrouver tout à l'heure. Je voudrais juste ajouter à ce que vous venez de dire que la détresse qu'on a entendue dans ce document terrible que on vient de rediffuser, qui date de deux jours après la découverte du corps de l'enfant, la détresse, évidemment, l'enfant est mort, la détresse des parents, on la comprend. On sait que c'est un assassinat, on sait que l'enfant a été tué, mais quand on sait quelque part dans sa tête que ceux, celui ou ceux qui ont décidé la mort de cet enfant font peut-être certainement partie d'un clan familial, d'une partie de sa propre famille, alors ça devient vraiment insupportable. Et c'est ce que on va entendre maintenant à travers un autre document qui date du mois de décembre 1984. Bernard Laroche a été accusé. Il continue de clamer son innocence depuis la prison de Nancy où il a été incarcéré, mais Jean-Marie Villemain n'a aucun doute sur sa culpabilité. Écoutez le témoignage qu'il livre toujours à notre correspondant dans la région, Jean-Michel Bézina.
Pour moi, oui, j'ai l'intime conviction que ce soit Laroche, pas de problème. Il ne faut pas oublier le témoignage de la Muriel qui est vraiment précis sur certains niveaux. Et puis le témoignage de la Isabelle qui dit que Muriel a vu Laroche jeter à sa glue à la Vologne. Et puis un témoignage qui n'est pas tellement important, mais pour nous compte quand même, c'est que la Marie-Rose, la sœur de Marie-Ange, qui a quand même dit sous PV qu'elle ne comprenait pas le comportement de sa famille. Dans une affaire comme ça, ne cherche pas à savoir la vérité.
Mais Bernard Laroche, il vous en voulait?
Il n'a pas à m'en vouloir, j'ai jamais rien eu avec.
Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a poussé à commettre l'irrémédiable?
Moi, personnellement, je pense qu'on a dû le guider sur un cap, oui.
Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu irrité que l'on désigne un petit peu, du doigt maintenant, votre épouse?
C'est pas normal, mais de toute façon, il fallait s'y attendre parce que... En dehors de Laroche, ma femme comme alibi, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'en a pas. À part les trois personnes qui l'ont vu monter. Et puis l'alibi qu'elle avait, c'était le gosse. Mais maintenant, elle l'a plus, c'est pas lui qui veut revenir pour dire ce qu'elle a fait.
Vous serez tranquille quand?
Je saurai toute la vérité.
Et cette vérité, selon vous, elle est de quel côté? Vers vos frères? Vers vos sœurs? Ou vers d'autres personnes?
La vérité est dans la famille, de toute façon. Je ne veux pas donner de détails, mais la vérité est dans la famille, sûr.
Alors évidemment, quand on recueille des témoignages sur une affaire criminelle, on pense rarement à ce qui se passe dans la tête du journaliste. Parce que, voilà, les journalistes sont là. Alors, disons-le tout de suite, c'est pas pour dédouaner nos confrères, parce que il y a des gens qui ont été admirables dans la gestion de ce dossier, gestion journalistique de ce dossier. Il y a des gens qui ont été beaucoup, beaucoup moins admirables et qui ont relayé des rumeurs honteuses, dont souffre encore certainement Christine Villemain. On va en parler dans un petit instant avec vous, Marie-Christine Chastan-Morand, et avec le journaliste Jacques Expert.
Jacques Pradel sur RTL.
Les invités de l'heure du crime, maître Marie-Christine Chastan-Morand, tout à l'heure dans quelques minutes, maître François Saint-Pierre qui sera en ligne avec nous, qui est deuxième avocat de l'équipe des trois avocats qui soutiennent et défendent le couple Christine Jean-Marie Villemain, et puis Jacques Expert qu'on va retrouver dans un petit instant. Mais j'aurais voulu avoir votre propre éclairage, Marie-Christine Chastan-Morand, sur cette pression médiatique qui dure depuis plus de 35 ans autour de ce couple.
Alors tout d'abord, il y a une chose qu'il faut constater, c'est que ce jeune couple, ils avaient à l'époque 24 et 26 ans, je crois, c'est-à-dire qu'ils étaient plus jeunes que le sont leurs enfants aujourd'hui. Et ils n'étaient absolument pas préparés, bien évidemment. Non seulement il y a cet assassinat, il y a ce drame, et puis ensuite, on voit arriver, je ne sais pas, peut-être 60 reporters qui cherchent à leur parler, qui les poursuivent, à les interviewer. Ils ne sont pas préparés. Et ça se sent. Et quelquefois, on dit des choses et ils vont vouloir... Finalement, ils entretiennent la machine parce qu'ils veulent répliquer à ce que disent d'autres, à ce qu'on dit d'autres. Et finalement, ils répliquent à d'autres par journalistes interposés. Bon, déjà, il y a quand même un certain cafouillage parce qu'ils ne sont pas préparés. Ils ne connaissent pas ce monde. Et puis ensuite... on sait qu'à partir du moment où La Roche est mort, il y a eu toute cette traque à l'encontre de Christine Villemain.
Bien sûr.
Et pendant 3 mois, puisqu'elle a été inculpée, comme on disait à l'époque, au mois de juillet, c'est-à-dire que de fin mars jusqu'à juillet, ça fait à peu près 3 mois, pendant 3 mois, elle est traquée. Son mari, lui, est incarcéré, évidemment, puisqu'il a tué Bernard Laroche. Son mari est en prison. Et elle ne sort que pour aller le voir à la maison d'arrêt. Et dès qu'elle sort, enfin, elle est poursuivie. On la prend en photo sous des angles les pires, parce que finalement, elle était présentée un petit peu, à un certain moment, comme une fée carabosse et à dessein. C'était une volonté. Tous les jours, moi, je m'en souviens, il y avait des articles qui tombaient contre Christine Villemain. Oui. C'était dramatique. Dramatique. Oui. Alors, ensuite, l'affaire s'est poursuivie. Mais depuis qu'elle s'est terminée, c'est-à-dire depuis 1993, avant la réouverture, ils ont pris ce pli, c'est vraiment une volonté délibérée de leur part, de ne plus avoir de contact avec la presse. Ouais. Pour protéger leurs enfants, pour protéger leur famille, se protéger eux, parce qu'ils ont compris et maintenant ils savent des choses qu'ils ne savaient pas à l'époque. Mmh. Et puis surtout pour protéger leurs enfants. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que depuis 1986, c'est-à-dire depuis la tentative de suicide de Christine Villemain, parce qu'elle est allée elle n'en pouvait plus. Donc, quand un jour on lui a dit « vous allez à l'Assises pour l'assassinat de Grégory », là, elle a fait une tentative de suicide, parce que c'était vraiment le ciel lui tombait sur la tête. Eh bien, depuis, il n'y a eu que 2 interventions de leur part, à la Marche du siècle, dont vous parlerez peut-être, où ils ont voulu mettre carte sur table, et ensuite, au moment où il y a eu un film qui est sorti.
Alors justement, La Marche du siècle, c'est le document que je voulais vous faire entendre maintenant. C'est un document qui remonte au 27 avril 1994. On est donc 10 ans après le drame, et je crois qu'il y a eu aussi la publication du livre le 16 octobre, je crois que c'était le titre de ce livre, paru chez Plon. Et Jean-Marie Cavada, donc, qui présente La Marche du siècle, demande à Jean-Marie Villemain s'il a un jour, au moment de toutes ces accusations d'infanticide contre sa femme, est-ce qu'il a un jour douté de sa femme ?
Jamais, jamais, jamais. Au grand nom, jamais. Mais c'est pas l'amour qui rend aveugle, non. On avait vécu un bonheur avec Grégory, C'était
évident.
C'était évident, mais plus qu'évident.
Et vous, madame, est-ce que vous avez pensé que votre mari, du fond de la prison où il se trouvait, pouvait commencer à douter de vous? Ou pas du tout non plus?
Pas qu'il douterait de moi un seul instant. Il m'avait vu avec Grégory, donc l'amour que je portais à mon enfant, l'amour que je lui portais, notre vie de couple et tout. Mais ce que j'avais peur, c'est que les gens de l'extérieur, donc je parle avocat qui était dans le dossier, ou magistrat, arrive à force, parce qu'il était enfermé, donc je veux dire, il était dans un milieu aussi où on devient nuisible, on prend les coups et puis il faut encaisser, puis au moment on dit bon, il faut que je sorte de cette prison, le seul moyen c'est de marcher comme il dit. J'avais cette peur qu'ils arrivent à le forcer, à le convaincre pour qu'ils se mettent aussi de leur côté et puis qu'ils se mettent contre moi. C'était celle, mais venant de l'extérieur, mais pas de lui, de son plus profond de lui-même.
Un extrait donc de cette émission La Marche du siècle d'avril 1994. Jacques Expert, quel regard vous portez sur nos confrères et sur ces soubresauts médiatiques et aussi, faut le dire que une des journalistes qui était chargée du dossier pour une radio voisine, qui était Europe 1 à l'époque, Laurence Lacour a voulu changer de métier après. Au bout d'un moment, elle a écrit ce livre que je recommande à tout le monde de lire sur l'affaire Le Bûcher des Innocents. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait appeler les dérives médiatiques ?
Je voudrais rebondir juste à ce qu'a dit tout à l'heure Maître Chasson, en disant que Jean-Marie Crécy-Villemain n'était pas préparé, mais c'est toute une région, tout un appareil judiciaire, toute une presse locale qui n'était pas préparée à ce tsunami qui a déferlé sur Épinal et sur les Panches sur Bologne. Donc c'est ce qui explique aussi les débordements de cette affaire. Et je voudrais ajouter une chose qui... vous savez que généralement, les époux Villemain n'aura jamais une émission qui leur est consacrée. Donc je pense qu'ils nous écoutent. J'en ai pas la certitude, mais je pense qu'ils nous écoutent. Et vous leur avez fait subir un petit supplice en passant quelques sonores tout à l'heure.
Bien sûr.
Parce qu'ils ont entendu la voix de leur tortionnaire. Le journaliste de RTL a été dans cette affaire-là leur tortionnaire. Le mot est n'est pas fort. C'est la réalité. C'est un journaliste. Je peux vous citer qui a dit au capitaine Sesma un jour. Il lui a dit capitaine. Je parie que c'est la mère et je vous parie de champagne que c'est elle. C'est
terrible,
donc il a dit ça. Et moi, j'affirme ici l'avoir entendu dans le bureau du juge Lambert. Derrière la compagnie de notre journaliste qui s'appelle Jean-Michel Kardec de Paris Match qui a confirmé ce que je voulais vous dire. Il a dit au juge directement: quand est-ce que tu vas l'inculper, cette salope? Ce sont les termes qu'il a employés, que j'ai entendus en parlant évidemment de Crécy-Villemain. Donc, entendre la voix de Jean-Michel de Glisina des années après, je pense que c'est encore douloureux pour eux. D'autant plus, alors je sais bien qu'entre avocats, on n'aime pas trop dire du mal des uns des autres, mais c'est vrai que dans cette affaire, il y a eu un trio diabolique, je le dis, qui est un avocat, un policier et un journaliste, celui dont on vient de parler, qui ont uni leurs forces pour faire tomber Crécy-Villemain. Et ça, je pense que journalistiquement, parce que parfois dans les affaires judiciaires ou dans n'importe quelles affaires, les journalistes peuvent raconter parfois racontent des bêtises, etc. Mais cet accord tacite et qui s'est noué autour d'un couscous entre les trois hommes est pour moi la pire des choses qui puisse arriver dans une affaire judiciaire. Et c'est une honte pour le métier que je suis fier et que nous sommes fiers, je pense, Jacques, de faire. Et pour terminer justement sur ce journaliste, et je vous assure que c'est vrai, moi j'ai démarré dans le métier, j'ai démarré à France Inter en 84, et l'affaire est de 84. Donc lui était un vétéran, moi j'étais un jeuneau à l'époque, et un soir, je m'en souviens parfaitement, il est venu frapper à la porte de ma chambre d'hôtel. Il était 10h du soir, je pense qu'il avait... passé la soirée avec ses compagnons, parce qu'il représentait quand même sa force et qu'il avait à peu près 80% du pouvoir médiatique de l'époque. Oui. Il est venu frapper, parce qu'il savait que moi j'avais un peu un esprit critique déjà sur son comportement. Mm-hmm. Il est venu frapper, il était au bord des larmes, il m'a dit: tu sais, si c'est pas elle, je suis une ordure. Voilà ce qu'il m'a dit.
Oui. Ben vous m'apprenez ce que vous venez de dire. J'avais entendu dire que ce journaliste avait été à l'origine de rumeurs sur la culpabilité éventuelle de Crécy-Villemain, mais je ne savais pas. Je découvre donc avec ceux qui nous écoutent ce que vous venez de dire. Mais on comprend mieux le dégoût de notre consoeur Laurence Lacour, dont j'ai pas cité le nom tout à l'heure, qui voilà, à un moment, on s'est dit, je peux plus faire ce métier, et qui a écrit quand même ce livre. Heureusement que ce livre reste un témoignage absolument extraordinaire de la manière dont s'est déroulée cette affaire.
Jacques Pradel sur RTL.
Les invités de l'heure du crime où nous évoquons ce soir le combat de Christine et Jean-Marie Villemain à travers tous les rebondissements, les soubresauts, les rumeurs, les horreurs, on peut dire, de l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Grégory. On en parle avec maître Marie-Christine Chastan-Morand, Jacques Expert que vous venez d'entendre, journaliste qui était sur le terrain à l'époque en 1984, et maintenant avec maître François Saint-Pierre qui est avocat pénaliste également et qui représente comme ses confrères et consoeurs, les intérêts du couple Villemain. Bonsoir maître.
Bonsoir Jacques Pradel.
Alors, j'ai envie de vous poser d'abord de ne pas vous enfermer dans une question précise, mais de vous demander l'éclairage que vous pouvez nous donner au jour d'aujourd'hui sur cette affaire. Est-ce que vous partagez, j'allais dire, sinon l'optimisme, tout au moins l'espoir que semble avoir d'abord Christine et Jean-Marie Villemain, et dont maître Chastan-Morand a témoigné tout à l'heure. Vous pensez que l'affaire peut avancer encore du côté, on a parlé du côté ADN, mais moi j'avais envie de vous demander du côté de, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour identifier le ou les corbeaux?
C'est l'espoir, c'est la détermination aussi, et puis la confiance dans la justice. Je confirme à Jacques Expert que, bien sûr, que Jean-Marie et Christine Villemain nous écoutent ce soir. Et chaque fois, ces enregistrements qui repassent sont des blessures ravivées pour eux. Ils ont vécu le pire, mais ils ont vécu aussi le meilleur. Laurence Lacour a été une journaliste remarquable. Aujourd'hui encore, son livre fait autorité. Mmh. Vous, Jacques Pradel, vous avez toujours accordé une attention très, très bienveillante et humaine, et ils en sont très reconnaissants. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, ils savent qu'il y a des enquêteurs de la gendarmerie qui sont parfaitement déterminés pour continuer jusqu'au bout, pour faire tout ce qui est possible. Et puis je leur ai dit, parce que je le connais bien, que le nouveau magistrat chargé du dossier depuis un an à peu près, Dominique Brault, le président de la chambre d'instruction de Dijon, est un excellent magistrat qui s'est totalement investi dans le dossier. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que plus de 35 ans après le crime, il y a toujours des journalistes, des gens de justice, des magistrats, des gendarmes, des avocats qui restent déterminés. Parce que ce qui s'est produit, vous l'avez tous dit, est un crime si atroce qu'on ne peut pas laisser tomber une telle enquête jusqu'à ce que tout ce qui est possible de faire l'ait été. Alors, est-ce qu'on y parviendra? Mais personne ne connaît la fin de l'histoire. Ce qui est bien certain, c'est que si on se démotive, si on ne fait plus rien, ben, on n'y arrivera pas. Moi, je crois, tout comme Marie-Christine vous l'a dit, que les preuves scientifiques peuvent encore résoudre l'énigme. Mais il y a aussi, comme dans toute affaire criminelle, une très grande part d'humanité. Et je redis avec Marie-Christine que ceux qui savent ce qui a pu se passer ou qui ont des bribes d'informations, ils doivent en parler. C'est du civisme. Franchement, ne pas parler, garder ça pour soi, une sorte d'omerta de la Vologne, quand il s'agit de l'assassinat d'un gosse de 4 ans, c'est pas glorieux. C'est vraiment inadmissible. C'est infâme. Et donc, la seule attitude digne et humaine maintenant, c'est que les choses soient dites. Et je crois que ça sera un bien pour tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent dans cette région, mais évidemment et avant tout pour Christine et Jean-Marie Villemain.
Alors, j'évoquais tout à l'heure le coup de théâtre du printemps 2017 et ce qui a précédé les mises en examen pour enlèvement, séquestration, suivi de mort. Avait été, ce qui a précédé, donc, c'était ce rapport de la gendarmerie qui travaillait depuis, à la demande de la juge, depuis 2008, hein, je crois, depuis l'année 2008, en revisitant l'ensemble de l'affaire, en se servant de ce fameux logiciel d'expertise criminelle Anacrim, en croisant tout ce qui avait été dit par dans les témoignages, en essayant de trouver les contradictions. Et ce rapport avait été précédé, je crois, crois, de mémoire, le 10 mai 2017, c'était les experts du département sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie qui avaient publié 48 pages. Un rapport de 48 pages, mais qui commençait, le rapport final a été beaucoup plus important, il faisait près de 500 pages, mais ces 48 premières pages, si j'ose dire, commençaient par « Nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l'auteur de l'enlèvement de Grégory », et c'est dans ce document qu'il était question justement de ne pas attribuer le meurtre de l'enfant à Bernard Laroche ou à quiconque, mais en fait à une deuxième équipe, et on était, disaient les gendarmes, face à ce que Thierry Moser, d'ailleurs on parlait de lui tout à l'heure, le troisième avocat du couple Villemain, a appelé d'ailleurs ici à ce micro un meurtre de famille, c'est-à-dire une autre équipe, un meurtre collectif. Est-ce que c'est votre analyse également? Est-ce que vous partagez cette analyse, Maître Saint-Pierre?
Oui, je trouve que Anacrime, c'est un logiciel qui permet de mettre en connexion une multitude d'éléments d'un dossier. Donc c'est une aide. Ça n'est pas du tout un automatisme de l'enquête. Non, c'est une aide apportée aux enquêteurs qui est très, très précieuse. Et cette expertise a permis de structurer, de nourrir l'hypothèse qu'avait pressentie le président Simon, il y a plus de 25 ans de cela.
Qui avait remplacé le juge Lambert, qui avait pris la suite du dossier.
Longtemps après, tout à fait. Mmh. Et donc, ce magistrat avait pressenti cela. Aujourd'hui, ce qu'expliquent les gendarmes, c'est que l'ensemble des données donne comme hypothèse que Bernard Laroche aurait enlevé l'enfant, mais qu'il l'aurait remis à d'autres personnes. Il n'a pas pu tout faire. Et c'est atroce.
Et qu'il a même peut-être, disaient les gendarmes, été manipulé.
C'est possible. Oui. C'est tout à fait possible qu'il n'ait pas eu conscience que l'enfant allait mourir. Oui. Mais c'est atroce parce que cela signifie néanmoins que plusieurs personnes se sont concertées avant l'enlèvement, n'est-ce pas, dans un but criminel évident. Oui. Ensuite, que la mort ait été voulue d'une manière extrêmement cruelle ou soit accidentelle, on n'a pas encore de certitude absolue à cet égard. Quoi qu'il en soit, c'est un meurtre, c'est un crime collectif, j'allais dire tribal. C'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui, dans une famille, se seraient dit que pour se venger de Jean-Marie Villemain et de sa réussite,
il fallait tuer son gosse.
Ouais. C'est abominable. Et c'est bien la raison pour laquelle je dis personne ne peut vivre avec un tel secret en soi. Moi, j'ai souhaité que Muriel Boll ouvre son cœur à un moment donné. Ouais. Elle est bloquée, elle ne le veut pas, elle ne le peut pas, et c'est ainsi, nous ne l'accablons pas. Mmh. Mais je dis que l'humanité veut que ceux qui savent parlent. Voilà.
Ouais. Alors, est-ce que l'assassin ou l'un des assassins de l'enfant avait auparavant passé des coups de fil, puis écrit des lettres anonymes. On va parler de ce ou de ces corbeaux et faire le point sur ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on pourra peut-être savoir dans les mois qui suivent sur l'identité du ou des corbeaux. Évidemment, les corbeaux ont beaucoup occupé les enquêteurs. Il faut peut-être rappeler, je vais peut-être le faire avec Jacques Expert, qui est toujours en ligne, je crois. Il faut dire, Jacques Expert, que avant les lettres anonymes, y compris évidemment la fameuse lettre anonyme de revendication de la mort de Grégory, il y a eu une série d'appels téléphoniques, mais beaucoup. Il y a eu 700 appels en 3 ans téléphoniques à partir du moment où, je crois, le téléphone est entré dans la vallée de la Vologne.
Oui, c'est ça. Pendant plusieurs années, la famille Villemain, essentiellement beaucoup d'ailleurs, Monique et Albert, les parents de Jean-Marie, ont été les principales victimes de ce corbeau qui les accusait de tous les maux, qui notamment était très dur avec Monique, qui était supposée avoir eu un enfant adultérin, enfin, etc. Il y a pas mal de choses où elle était spécialement visée. Et en fait, les appels se sont arrêtés parce qu'ils ont évidemment porté plainte auprès de la gendarmerie. La gendarmerie, c'est pour ça qu'on dispose aussi de des enregistrements, parce que la gendarmerie leur a fourni un moyen pour enregistrer ces appels. Et le corbeau a su qu'il possédait cet appel pour enregistrer, et donc il s'est mis à écrire à partir de ce moment-là. D'accord. Il s'est aussi d'ailleurs acharné sur Jean-Marie et Christine Villemain, sur Michel, enfin sur les sur les frères. Mais ce qui fait dire que c'était que le corbeau était un proche de la famille, parce qu'il donnait dans tous ses appels, il a donné des détails extrêmement forts, extrêmement
sur l'intimité même des gens à qui il s'adressait, en disant ah ben t'as changé la peinture de telle pièce, etc. quoi.
Comme s'il les regardait à la jumelle, et notamment alors le son changement de mode de fonctionnement, c'est-à-dire du parler à l'écrit, est aussi la conséquence du fait que la famille, dans la famille, on disait on enregistre, vous voyez. Donc il a changé. Et en fait, il y a pas tellement de corbeaux, il y a pas tellement, on a dit que tout le monde était un peu corbeau dans cette famille, que tout le monde s'accusait. C'est pratiquement toujours la même voix, et de temps en temps il y a la voix d'une femme.
Voilà, on pense qu'il y a eu une voix d'homme et une voix de femme. C'est qu'à cette ont été évidemment soumises à des expertises dans les années 80. On en parle dans un instant avec Marie-Christine Chastan-Morand. Mais d'abord, je voudrais vous faire entendre un document qui est un extrait de l'heure du crime. Lorsque nous avions, en avril 2018, organisé une des émissions que nous avions consacrées à l'affaire, et j'avais invité le journaliste Thibault Solano, qui était l'auteur d'un livre que j'ai trouvé personnellement remarquable, La Voix Rauque, un livre paru aux éditions Les Arènes. Et Thibault Solano, en fait, racontait l'histoire, l'affaire Grégory, avant l'affaire Grégory. C'est-à-dire qu'il avait tout mis, justement, sur ces centaines d'appels téléphoniques, et ceux qui avaient eu le corbeau ou les corbeaux au téléphone parlaient souvent d'un homme à la voix rauque, donc d'où le titre de son livre. Et dans notre émission, il raconte, au micro de l'heure du crime, le tout premier coup de fil du corbeau au domicile des époux Villemain. Écoutez.
Difficile de dater précisément le premier appel du corbeau. On sait qu'au premier semestre de l'année 1981, il y a plusieurs appels silencieux qui sont donnés chez les grands-parents de Grégory, Albert et Monique. Mais c'est difficile de les attribuer au corbeau parce que c'est silencieux. Mais le premier appel parlé, il survient en septembre 1981. C'est Jean-Marie Villemain qui décroche le téléphone, il est minuit. Et il entend d'abord une musique, un disque, qu'on passe à côté du combiné. Et c'est une chanson qui est à la mode, un peu paillarde, qui s'appelle « Chef, un petit verre, on a soif ». Et au début, ça le fait plutôt rire. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a une voix de femme qui chante les paroles, mais un peu en décalé, un peu en retard. Il essaye de nouer un dialogue, mais il n'y arrive pas. La femme continue à chanter. Et il y a deux appels. Il raccroche, excédé. Ça rappelle nouvelle chanson, encore cette voix féminine. Il essaye encore d'établir un dialogue, et au lieu de parler, cette femme se met à rire, mais un rire...
De façon hystérique, vous dites.
Voilà, hystérique, comme si c'était une folle au bout du fil, en fait. Ouais. Et en fait, Jean-Marie Villemain ne sait pas trop sur quel pied danser, justement. C'est-à-dire, est-ce que c'est une blague ou pas ? En fait, c'est le premier appel d'une longue série de plus en plus effrayante.
Alors, effectivement, il faut dire qu'on est avant 1984, on est dans les trois ans qui précèdent Maître Chastan-Morand, et on n'a pas les techniques d'aujourd'hui, bien sûr, et je crois même avoir lu, en tout cas, parce que moi je n'ai pas suivi cette affaire en tant que journaliste, mais je crois qu'on avait confié, notamment à Jean-Marie Villemain, un petit enregistreur comme un dictaphone, finalement, pour essayer de mettre ça sur l'écouteur de son téléphone. Donc la qualité de ces sons dont on peut entendre certains sur Internet, est très mauvaise finalement. Je profite de votre présence pour vous demander qu'ont donné les analyses qui ont été faites, je crois, par des spécialistes de l'IRCGN.
Il y a eu plusieurs expertises déjà dans le dossier dès le départ. Certaines ont d'ailleurs été annulées pour vice de forme, hein, ce qui est quand même très dommage. Ces analyses au niveau des voix, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que ça n'était pas enregistré dans des conditions optimales.
Ouais, parce qu'il n'y a pas d'empreintes vocales comme il y a des empreintes digitales.
C'est assez compliqué. Mais moi, je voulais même revenir sur autre chose. C'est que, comme l'a dit, je crois, Jacques Expert, ces communications se sont arrêtées en avril 1983. Et la dernière lettre était, je crois, évidemment avant l'assassinat, était du 17 mai 1983. C'est-à-dire qu'entre cet arrêt en 1983 et l'assassinat le 16 octobre 1984, le corbeau ne s'était plus manifesté. Et ce qui est très dommage, c'est que dès le début finalement de l'enquête, dès le début de cette affaire, c'est ce que demandait Jean-Marie Villemain, on n'est pas recherché ce qui avait pu réveiller, j'allais dire, la rancœur et la jalousie du ou des corbeaux. C'est-à-dire de rechercher le mobile. Et ça, moi, je voulais un peu terminer là-dessus, parce que dès le départ, Jean-Marie et Christine Villemain, mais Jean-Marie demandait à ce qu'on recherche le mobile, parce qu'il n'y a pas de crime sans mobile. Il n'y a pas de crime sans mobile. Alors on est allé chercher la mère, on n'a jamais trouvé de mobile, bien évidemment. Donc, ça aurait été intéressant de le rechercher. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas été fait.
Alors, le mot de la fin, je vais le donner au journaliste, à Jacques Expert, qui est en ligne. En ajoutant une petite chose à propos des coups de téléphone, Jacques Expert, dans le livre auquel je faisais référence, là, de Thibault Solano, il cite le contenu d'une conversation téléphonique, mais où le corbeau aurait dit à Jean-Marie Villemain, de toute façon, je te mettrai une balle entre les épaules. Et puis, il avait dit, et puis non, finalement, je m'en prendrai à ton mioche, ça te fera plus de mal. Et il en tirait la conclusion que le corbeau avait prémédité son crime déjà dans ces années-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve que les mots qui sont employés, le mot mioche, je m'en prends à ton mioche, je trouve ça effrayant. On va revenir terrible, peut-être à la genèse de cette émission, c'est-à-dire que...
Il vous reste 30 secondes, je dis ça aux professionnels que vous êtes.
Le calvaire de ce qu'ont vécu et que continuent à supporter les parents de Grégory. Moi, je suis en admiration devant leur force, parce qu'ils ont d'abord, ils y croient. Ils croient que la vérité va finir par arriver. Ils n'ont pas de totale certitude, sauf celle que c'est Bernard Laroche et Muriel Boll qui ont levé leur enfant. Pour le reste, Maître Chastan, je pense, le confirmera. Ils attendent que la justice donne réponse à leurs interrogations. Ils vivent avec leurs interrogations.
Ce que nous espérons tous.
Et voilà. Et si je peux rajouter quelque chose, il vous reste quelques secondes, Jacques.
Très rapidement.
Je sais que c'est la dernière émission pour vous, et puisque j'ai été directeur des programmes pendant quelques années de cette chaîne, je veux dire le plaisir de travailler avec vous, à la fois humainement et surtout, je dirais, professionnellement, parce que vous êtes un grand professionnel, et ces centaines d'émissions, ces dizaines d'émissions en sont la preuve.
Alors, je vous remercie beaucoup, ça me touche. En tant que grand professionnel, je suis obligé de vous envoyer la pub, mais je reparle après. Eh bien voilà, merci de m'ouvrir le micro une dernière fois, Marc Bisset. Je voudrais simplement vous dire, et vous l'entendez à mon ton, que bien sûr, 10 ans, il y a toujours un petit pincement au cœur quand on arrête une belle aventure comme celle-là. Et l'heure du crime pendant 10 ans, ça a été une très très belle aventure que j'ai partagée ces dernières années avec Justine Vigneault, avec Amandine Lemaire, dont vous entendez les noms tous les soirs. Mais on pense aussi au lointain passé, à Perrine Suquet par exemple, avec qui nous avons démarré cette aventure, d'ailleurs sur une autre radio avant de venir à RTL. Et puis autrement, c'est des prénoms Margot, Charlotte, Laure, David, qui est là ce soir, Émilien et d'autres. Ce sont des équipes et j'ai toujours tenu à dire leur nom à l'antenne parce qu'ils font d'abord un travail remarquable, un petit peu plus dans l'ombre que le présentateur, mais ils méritent vraiment un très très grand merci. Merci à tous. Il est 21h, vous êtes sur RTL.